Nous le savons tous, l'amour et la sensualité jouent un rôle central dans notre société du XXIe siècle. L'humanité a toujours aimé des histoires d'amour, et encore aujourd'hui, ça nous semble très moderne d'apprécier ce genre d'histoire. Et aujourd'hui, nous aimons les histoires d'amour compliquées, quand on regarde les films, quand on lit les romans modernes. Mais ce n'est pas une chose nouvelle. Les Grecs et les Romains écrivait des pièces de théâtre au sujet de l'amour, et cela il y a 3 ou même 4 000 ans, il y a très longtemps. Ils écrivaient sur les grands thèmes de l'amour, la sexualité, les relations entre mari et femme, et parfois quand on lit ces pièces, on est frappé par un aspect moderne, c'est-à-dire que ce qui se passait à l'époque, ce qui accaparait l'attention des gens, c'est la même chose, ce sont les mêmes choses qui nous fascinent aujourd'hui dans notre monde moderne. Parmi les ouvrages littéraires en langue française, déjà au XIIe et au XIIIe siècle, à peine la langue française différente du latin ou d'autres langues parlées à l'époque, on a déjà beaucoup d'histoires d'amour. Des ouvrages comme Tristan et Iseut, Le Chevalier au Lion, peut-être que les jeunes ont dû étudier ces histoires déjà à l'école. Que ce soit Shakespeare, Molière, Racine, Corneille, tous ces grands écrivains ont écrit parmi leurs meilleures pièces de théâtre, leurs meilleurs ouvrages autour des histoires d'amour et de passion. Et encore aujourd'hui, dans notre 21e siècle, nous sommes bombardés de tous les côtés par ce genre d'histoire. Des émissions pour adultes et pour jeunes à la télé abordent ces thèmes très très tôt. Les premiers baisers, ça commence très jeune pour les enfants maintenant, ces thèmes dans les émissions à la télé. Mais nous devons aussi constater que quelque chose ne va pas dans tout cela. Depuis que nous avons des histoires d'amour, que ce soit dans des pièces grecques, romaines ou autres, eh bien très souvent, ces histoires finissent mal, puisque l'homme ne sait pas exactement comment on devrait se comporter et comment le côté romantique de la vie doit être conduit. Depuis le début des histoires d'amour, ça finit souvent tragiquement. Roméo et Juliette et ainsi de suite. La musique moderne parle souvent d'amour et souvent ça finit par être des histoires un peu tragiques. Je me souviens quand on habitait en métropole il y a quelques années de cela, il y avait un groupe de rock qui s'appelait les Rita Mitsuko, peut-être. Vous vous souvenez de ça, et ils avaient une grande tube quand on habitait en France, et le refrain c'était « Les histoires d'amour finissent mal en général ». Peut-être que vous vous souvenez de cette chanson, c'était très populaire pendant un moment. Et c'est vrai que souvent, les histoires d'amour dans notre monde moderne finissent mal. La dernière fois que j'ai vérifié, un quart des mariages en France se termine par le divorce. Un quart des mariages. Et c'est plus de la moitié dans les grandes villes. Plus de la moitié des mariages finissent par le divorce dans les grandes villes. Et ça, c'est sans compter le fait qu'il y a de plus en plus de monde aujourd'hui qui ne se donne même pas la peine de se marier. Le concubinage, le fait de vivre ensemble, et tout cela semble bien moderne, et c'est certainement à la une. Des crimes sexuels, toujours choquants, de plus en plus choquants, font la une des journaux également, puisque notre monde de plus en plus à la dérive. Pourquoi cette situation? Pourquoi la tristesse? Pourquoi le côté tragique de ce qui devrait être une grande joie dans la vie humaine? Eh bien, la raison, c'est que l'humanité en général ne comprend pas pourquoi Dieu a créé la sexualité. On ignore le but de tout cela, et puisqu'on ignore le but, on ignore comment s'y prendre. On ignore comment se comporter. On ignore comment faire pour que l'amour puisse vraiment unir à la vie un homme et une femme. En plus, quand nous lisons ce qui est marqué dans la Bible, nous comprenons que l'humanité, nous autres êtres humains, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir avoir le côté romantique dans nos vies et de pouvoir réussir ce domaine qui est très important. Il est important pour nous, en tant que chrétiens, d'avoir le bon perspective dans tout cela et de comprendre comment Dieu a prévu la sexualité, comment il a prévu le côté émotionnel dans la vie humaine, et comment nous devons aborder la chose, et comment nous devons nous comporter. Alors, aujourd'hui, c'est mon but, c'est de nous aider à comprendre la perspective de Dieu dans tout cela. Et pour le faire, pour structurer un peu ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, j'aimerais vous donner une formule simple, claire et facile à retenir. Simple, claire et facile à retenir. C'est important pour nous tous. C'est important pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés. C'est important pour des célibataires. C'est aussi important pour ceux qui sont mariés de comprendre comment Dieu voudrait que nous nous comportions dans le domaine des sentiments. Voici la formule dont je voulais parler tout à l'heure. Amour, mariage, sexualité. Amour, mariage et sexualité. Et c'est toujours important que ça se passe dans cet ordre-là. Ce qui n'est pas toujours le cas dans notre monde soi-disant moderne. Parfois, aujourd'hui, on mélange l'ordre. Aujourd'hui, souvent, c'est amour, sexe, mariage. Ou alors sexe, amour, mariage. Ou sexe, mariage, amour. Ou alors amour, sexe, et puis on finit là. Mais pour avoir une vie sentimentale vraiment réussie, un amour qui va nous rendre joyeux et comblés pendant toute la vie, il faut que les choses se passent dans l'ordre déjà défini. Amour, mariage, sexualité. Dieu l'a prévu ainsi. La Bible nous en parle. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le temps de ce sermon. Alors parlons d'abord d'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est souvent mal compris de nos jours ce que c'est le véritable amour qui doit exister pour unir mari et femme. La première chose, le premier sentiment qu'on éprouve quand on éprouve de l'intérêt pour quelqu'un, ce n'est pas l'amour. Les premières sensations qu'on a, la première sensation d'attraction, ça, ce n'est pas l'amour. On confond souvent. Et de nos jours, on pense que cette première attraction qu'on ressent pour quelqu'un, c'est de l'amour. Et ce n'est pas vrai. Nous avons, quand quelqu'un attire notre attention, on commence à ressentir un intérêt pour quelqu'un, c'est une impression un peu étrange, vibrante, exaltante. Il semble impossible de s'en débarrasser et on n'a pas envie de s'en débarrasser. On voit des étoiles filantes parfois. On a l'impression de planer dans les airs, de danser toute la nuit. C'est l'histoire de Roméo et Juliette, c'est le coup de foudre, c'est toutes ces expressions que nous avons pour parler de ces sensations. Mais ce que nous devons bien comprendre, tout cela n'est pas de l'amour. Ce n'est pas l'amour dans le sens biblique. Mais quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, dans la vingtaine, et quand on ne comprend pas ce que dit la Bible, on peut se tromper. Et on peut penser que ça, c'est de l'amour. Et c'est pour ça que nos parents nous expliquent, nous ont expliqué, nous expliquent, non, non, ça, c'est pas encore de l'amour. Ça, c'est un intérêt, c'est une amourette d'enfant, peut-être, mais ce n'est pas vraiment l'amour. Malheureusement, certaines personnes n'avancent jamais plus loin que cela dans leur compréhension. Ils pensent que c'est tout ce qu'il y a. C'est cette sensation agréable de premier intérêt pour quelqu'un. Bien des mariages de nos jours se fondent sur cette base-là. Et c'est en grande partie pour cela que beaucoup de mariages se terminent par le divorce. Parce que ce n'est pas un amour véritable. Et ce n'est pas un amour, ce n'est pas quelque chose de durable. Mais alors, si ces premières sensations ne sont pas l'amour, qu'est-ce que l'amour dans le sens biblique? Comment est-ce que nous pouvons savoir quand nous sommes vraiment amoureux dans le vrai sens de l'amour avec quelqu'un? Comprenons. Prenons d'abord 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 8. Passer un peu de temps ici à parler de l'amour, puisque beaucoup de gens en parlent aujourd'hui, mais peu de gens savent vraiment de quoi il s'agit. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Là, nous voyons quelque chose de très frappant de prime abord. Si on devait choisir un mot pour décrire Dieu, d'après la Bible, nous devrions choisir le mot amour. Dieu est amour. Et tout ce qu'il fait est motivé par l'amour. Et nous ne pouvons pas séparer Dieu de son amour, puisque c'est la motivation de tout ce qu'il fait. Alors, si nous voulons comprendre l'amour, nous devons comprendre comment Dieu agit. Qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qu'il fait, puisqu'il est amour. Eh bien, regardons un autre passage que l'apôtre Jean a également écrit, cette fois-ci dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. C'est, au moins dans les milieux protestants évangéliques, c'est probablement le passage le plus cité de toute la Bible. Et eux, parfois, ils manquent un peu d'équilibre dans leur compréhension de ce passage. Mais, néanmoins, c'est un passage, c'est un verset très important. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu est amour, c'est sa motivation dans toutes ses activités. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé qu'il a donné. En fait, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son Fils unique. Là, nous avons déjà un premier aperçu très important de ce que c'est que le vrai amour. L'amour selon Dieu consiste à donner, à se soucier du bien-être de l'autre. Ce n'est pas une chose égoïste, ce n'est pas centré sur soi, sur ses propres désirs. C'est centré sur le bien-être de l'autre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que les êtres humains puissent recevoir le don gratuit de la vie. L'amour n'est pas centré sur soi-même. Ce n'est pas l'exaltation des étoiles filantes. Bien que nous verrons dans un instant à quoi servent ces étoiles filantes. Ça sert à quelque chose. Mais ce n'est pas l'amour. Le désir et la passion sont souvent confondus avec l'amour. Mais ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas le véritable amour. L'amour, c'est la capacité, c'est l'aptitude à mettre de côté ses propres intérêts et ses propres désirs et à donner à autrui, d'agir pour le bien-être d'autrui. Les sentiments qui mènent à la sexualité avant le mariage ne sont pas d'amour. C'est plutôt centré sur soi-même et sur ce qu'on veut. C'est centré sur la convoitise, en fait. Ce n'est pas centré sur le bien-être de l'autre, le désir de donner quelque chose de bien à l'autre. Nous devons comprendre qu'il faut une certaine maturité pour avoir ce genre d'amour. Un amour qui consiste à donner, à agir pour le bien-être de l'autre. Il faut une certaine maturité pour ne pas être centré sur soi-même, mais être centré sur le bien-être de l'autre, et ne pas être concentré à ses propres désirs. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que les étoiles filantes, ce n'est pas l'amour, mais à quoi sert ces étoiles filantes, cette émotion qu'on éprouve quand on est fasciné par quelqu'un du sexe opposé, le coup de foudre, comme on l'appelle parfois. Dieu a mis cette réaction en nous, il nous a créés comme nous sommes, il a mis ses passions, il a mis ses pulsions en nous. Et les étoiles filantes, le coup de foudre, c'est pour nous donner suffisamment d'intérêt pour explorer la possibilité d'une union par la suite. C'est pour nous encourager à mieux connaître l'autre personne. Ça sert à ça, les étoiles filantes. C'est la première attraction. Et cela peut amener plus tard à l'amour. Le véritable amour. Ce n'est pas toujours le cas. Si nous avons un certain recul dans la vie, nous pouvons tous penser à nos jeunes jours et penser à probablement la première personne qui a attiré notre attention. On a ressenti toute cette émotion et puis quelques semaines après, ça passait. Et probablement, on ne s'est pas marié avec la première personne qui a attiré notre attention. Ça montre que le coup de foudre n'est pas l'amour. Ça peut nous amener finalement à l'amour. Ça nous donne l'intérêt de poursuivre et d'apprendre à connaître la personne qui attire notre attention. Cet engouement nous stimule à mieux connaître la personne qui nous intéresse. Et dans ce sens-là, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas à ce stade tout de suite qu'il faut passer à la sexualité, comme malheureusement c'est souvent le cas dans le monde actuel. On a le désir et on se laisse aller tout de suite. Mais ce n'est pas l'amour. Et nous allons voir que de brûler les étapes de cette manière-là crée énormément de peine et de douleur par la suite. Et nous verrons cela, nous verrons pourquoi c'est le cas tout à l'heure. L'amour, c'est quelque chose qui va en croissant. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup, d'un jour à l'autre. C'est quelque chose qui doit croître, qui doit se développer et qui nécessite un certain temps. Pour mieux comprendre cette idée d'amour, le vrai amour, dans le sens biblique, dans le sens divin, dans le sens de ce que Dieu est et comment Dieu agit, je propose que nous regardions trois mots qui sont traduits par amour en français, du grec. En grec, il y a trois mots différents qui sont tous les trois traduits par amour en français. Le premier mot grec qui définit un aspect de l'amour, c'est eros. Eros, c'est un amour érotique. C'est un mot grec. Eros, E-R-O-S. Eros, c'est de là que nous avons le mot érotique en français. Et ça part de l'attraction physique. C'est un amour chimique, si je peux dire. C'est motivé par les pulsions chimiques que nous avons dans nos corps physiques. Eros peut être là, même entre personnes qui ne se connaissent que peu ou pas du tout. C'est le coup de foudre. Leurs yeux se rencontrèrent. Bon, voyons souvent dans les pièces ou dans les livres. Et il y a des étincelles. Ça, c'est cette attraction physique. C'est l'eros qui est en jeu là. Mais ce n'est pas le vrai amour qui unit vraiment deux personnes. Eros est un amour qui cherche une expression sensuelle. Eros, c'est la biologie, si vous voulez. Et cela fait partie du mariage, ça a son rôle à jouer dans le mariage. C'est une très bonne chose quand nous l'utilisons, quand nous l'employons, comme Dieu l'entend pour nous. Mais nous devons tous comprendre que Eros n'est pas l'amour qui unit un mari et une femme dans le mariage, qui les unit à tout jamais. Pour la vie. Eros n'est pas mauvais, mais ne doit jamais agir seul, en absence des deux autres amours, si nous considérons ces mots grecs. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'avancent pas plus loin que ça, et il y a beaucoup de mariages qui s'effectuent uniquement sur la base de cette attraction. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Las Vegas. Las Vegas, c'est très connu pour les casinos, mais c'est aussi très connu pour les mariages qui sont faits à la va-vite. Hein. C'est très facile de se marier à Las Vegas. Il y a même, je dis ça à la honte des États-Unis, mais vous pouvez vous marier dans votre voiture. Un peu comme si vous alliez au drive à McDonald's. Vous arrivez là, il y a quelqu'un qui fait officier au mariage, vous êtes dans votre voiture, vous prononcez les mots, vous signez, voilà, vous êtes marié. Et les mariages se défont très souvent tout aussi rapidement. On dit à Las Vegas, c'est assez honteux, mais les gens en rient un petit peu. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Personne ne saura ce que vous avez fait là. Et malheureusement, il y a beaucoup de vies brisées à cause de ce genre de comportement. Eros n'est qu'une partie de l'amour qui doit unir mari et femme au sein du mariage. Mais si Eros agit seul, eh bien, ça va finir par catastrophe. Le deuxième mot en grec, le deuxième mot grec qui est traduit par amour en français, c'est philia. Philia. P-H-I-L-I-A. Philia. C'est là que nous avons le mot Philadelphie, par exemple. Philia, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel. C'est la camaraderie. C'est un désir de coopération. Quelqu'un l'a défini comme ceci. Si Eros est un amour face à face, Philia est un amour épaule contre épaule. Où on s'effondre ensemble. On se soutient mutuellement. Philia, c'est la collaboration entre amis, entre membres d'une même famille, entre un couple marié également. On apprécie la compagnie. On préfère la compagnie de quelqu'un à la compagnie d'autres. Et un mariage doit aussi comporter philia. Il y a un moment dans beaucoup de mariages où l'éros n'est plus tellement possible simplement à cause de la vieillesse. les corps ne fonctionnent plus comme avant. Et pourtant, ces personnes-là, la filia les unit encore, et peut-être plus fortement qu'autre chose, vers la fin de la vie. Et on voit des personnes qui s'aiment de plus en plus profondément, même si l'aspect physique n'a plus tellement de place. C'est parce que filia est là. Cette camaraderie, ce désir de coopération, le plaisir de la compagnie de quelqu'un, parce qu'on aime discuter, on aime passer du temps ensemble. Ça aussi, c'est un aspect important du mariage. Tous ces éléments-là devraient se trouver dans un mariage réussi. Un amour fraternel, une camaraderie, un désir de coopération, la collaboration entre amis, entre personnes qui font partie d'une même famille ou d'un couple. Filia a sa place également. Et puis le troisième, et ça c'est l'amour le plus important, l'amour le plus élevé, si vous voulez, c'est le mot grec agapé. Agapé. A-G-A-P-E. Et là, c'est un amour spirituel, on peut dire. C'est un amour spirituel. Si Eros produit l'étincelle, la première attirance, Philia fait de quelqu'un un ami. Mais agapé va plus loin. C'est un amour total. C'est un amour qui veut donner. C'est un engagement complet pour le bien-être de la personne. Quand nous lisons dans Jean 3,16 que Dieu a donné son Fils unique, que Dieu a tant aimé le mot amour là, c'est agapé. Ça, c'est le genre d'amour que Dieu a pour les êtres humains. C'est le genre d'amour qu'il a pour nous, pour vous et pour moi. Un amour de prévenance, un amour de sollicitude. Un amour de souci pour le bien-être de la personne aimée. Et cet amour-là n'est pas naturel à l'homme. Ce n'est pas naturel à l'humanité. Ce n'est pas un amour adolescent, si je puis dire. Il n'y a pas de mal à être adolescent, tout le monde va y passer. Mais c'est un amour qui est mûr, pas immature. Eros vient tout naturellement à tout le monde. Nous sommes créés de cette manière-là. Philia aussi vient le plus souvent dans la vie de presque tout le monde. Nous avons tous des camarades à l'école. Il y a cette amitié, cette philia qui nous unit. Mais agapé ne vient que par la maturité. Et agapé, dans son sens le plus élevé, dans son sens le plus plein, ne vient que par la présence de Dieu dans nos vies. C'est l'agissement de Dieu dans nos vies. Et c'est pour cela que c'est si important que Dieu soit impliqué dans le mariage des chrétiens. Il peut donner un élément que nous ne pouvons pas avoir de nous-mêmes. Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Le genre d'amour que Dieu a agapé, le genre d'amour qui a fait en sorte qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus précieux, il était disposé à donner de cette façon-là, c'est un amour que Dieu peut répandre dans nos cœurs, d'après ce que nous lisons ici dans Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, agapé, l'amour qui donne, qui est rempli de prévenance pour l'autre, qui se soucie du bien-être de l'autre, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comment est-ce que nous pouvons avoir le même amour que Dieu a? Eh bien, c'est par son Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous mettons nos vies entre les mains de Dieu. Dieu commence à agir en nous. Il y a le fruit de l'Esprit. Et un des fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Ce n'est pas un amour humain. C'est un amour divin, agapé. Jésus a parlé de cet amour dans Jean chapitre 15, verset 13, et il est absolument exemplaire à cet égard dans sa vie et dans sa mort. L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13. Dans le verset 12 et 13. Il dit, c'est ici mon commandement, Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement qui nous donne de nous aimer entre frères et sœurs. Puis il dit au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et puis il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Encore une fois, nous voyons que c'est ça qui définit l'amour divin, c'est ça qui définit agapé. Cet amour-là donne pour le bien-être d'autrui. Jésus nous a aimés tellement et nous aime tellement qu'il était disposé à donner sa vie. Et ça, c'est le genre d'amour qui peut exister dans un mariage quand Dieu est présent, quand Dieu répand son amour dans nos cœurs. Un amour chrétien trouve mari et femme qui sont prêts à donner leur vie pour leur conjoint. C'est ce genre d'amour-là. Et je pense que beaucoup de personnes dans l'Église, nous avons des conjoints qui seraient disposés à donner leur vie pour nous. Et nous devons savoir apprécier cela, parce que cela montre la présence de Dieu, l'agissement de Dieu dans le cœur et dans l'esprit de quelqu'un. Ce genre d'amour-là, c'est une chose à savourer pour l'encouragement que cela nous donne. De voir qu'il y a quelqu'un de physique qui nous aime à ce point-là, tout comme Dieu nous aime à ce point-là. Éphésiens chapitre 5 également parle de l'amour qui doit nous unir, mari et femme. Éphésiens chapitre 5. Vous le savez sans doute que Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22, c'est un passage qui donne beaucoup d'instructions, beaucoup de compréhension concernant l'amour qui doit unir mari et femme. Mais en ce qui concerne cet amour agapé dont nous sommes en train de parler, nous allons lire le verset 28 et 29. Éphésiens chapitre 5, verset 28 et 29. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Notre façon de définir cet amour. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est comme ça que nous devons voir la chose. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Ça, c'est agapé. C'est aimer l'autre personne tout autant qu'on aime soi-même. Et même peut-être un peu plus. Cet amour-là qui doit exister dans un mariage chrétien, ça, c'est ce troisième type d'amour, agapé. C'est un amour qui nous vient quand Dieu répond son amour en nous par son Saint-Esprit. Ça, c'est le premier étape pour fonder un mariage, couple, une vie sentimentale réussie comme Dieu le voudrait pour nous tous. Ça, c'est le premier étape, c'est l'amour. Ça passe par l'engouement et ça se développe à travers le temps jusqu'à ce qu'il y ait cet élément d'agapé qui est là. Cet aspect de l'amour doit être. Le deuxième volet, comme nous avons dit au début, c'est le mariage. Le mariage, c'est quand on ressent de l'agapé pour quelqu'un, et normalement les deux en même temps, quand nous avons ce genre d'amour l'un pour l'autre, là on veut dédier le reste de sa vie, physiquement, sur le plan humain, à rendre cette autre personne heureuse. C'est l'agapé qui mène au mariage, qui devrait mener au mariage entre un homme et une femme. Il ne faut pas se marier avant que cet amour soit présent. Pour avoir les meilleurs résultats, il faut attendre que l'agapé soit présent avant de se marier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mariage plus ou moins réussi par des personnes qui ne sont pas converties. On voit des mariages plus ou moins réussis. Mais pour avoir les meilleurs résultats possibles, l'agapé, l'amour de Dieu, doit être présent. Et comme nous avons déjà dit, il faut du temps pour y arriver. Il faut se connaître. Il faut bien se connaître. Et ça, c'est pas une chose qui se passe dans des semaines ou même dans quelques mois. Il faut assez de temps pour vraiment bien se connaître. C'est pour cela qu'il y a des fréquentations. Un jeune homme et une jeune femme vont passer du temps ensemble. Les fréquentations aujourd'hui, c'est une idée qui est mal comprise par la plupart des gens. Les fréquentations, ça finit toujours par, pas toujours, mais souvent, ça finit par dans le domaine de l'éros. Ça devient physique très rapidement et on pense que c'est ça. C'est une chose que nous devons expliquer, mon épouse et moi, même à nos propres filles, parce qu'elles vont à l'école, elles baignent dans cette mer de désinformation qui est tellement courante, et nous luttons, nous aussi, pour aider nos filles à comprendre les fréquentations, c'est pour apprendre à connaître la personne. Il n'y a pas d'aspect physique dans tout cela. Un intérêt, mais ça ne doit pas devenir physique. C'est très important de bien connaître beaucoup de personnes avant de décider qu'on veut se marier avec une seule entre toutes ces personnes qu'on connaisse. Je sais que quand mon épouse et moi, quand nous étions à la base de collège, il y a quelques décennies maintenant, on nous avait appris une théorie, ou un modèle, si vous voulez, qu'on appelait le modèle du diamant. Et nous croyons fermement dans l'efficacité de ce modèle. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un grand diamant, ça commence à une pointe, ça s'élargit au milieu, et puis ça se réduit et ça finit haut à une pointe également. Et d'une certaine façon, cela explique comment le but des fréquentations. Au début, quand on commence à ressentir un intérêt pour le sexe opposé, on n'a pas considéré un grand nombre de personnes, on vient juste d'avoir un intérêt. Nos corps commencent à changer et on commence à prêter attention aux garçons, aux filles pour la première fois, on n'a pas d'expérience d'avoir fréquenté ou passé du temps dans un sens romantique avec beaucoup de personnes. Alors c'est là où il faut commencer à élargir ses horizons et connaître beaucoup de personnes du sexe opposé. Discuter, bavarder, passer du temps ensemble, faire des activités ensemble. Et ce sont des choses qu'on peut faire en groupe facilement. Mais on élargit ses connaissances pour apprendre qu'il y a toutes sortes de personnes différentes. Il y a des personnalités différentes, il y a des qualités différentes, il y a des traits de caractère différents. Et nous allons trouver que certaines personnes, certains traits de caractère sont plus importants à nos yeux que d'autres. Et puis, après avoir acquis une certaine expérience avec des personnes différentes, on peut commencer à réduire. Et on sait très bien que telle ou telle personne, non, ça ne m'intéresse pas ou ça m'intéresse moins que telle ou telle autre. Et puis finalement, à travers des mois et des années, on finit par savoir, voilà le genre de personne qui m'intéresse. Voilà le genre de personne avec qui je voudrais passer ma vie. La théorie ou le modèle du diamant, si vous voulez. L'épouse et moi, après coup, nous avons discuté de ça et chacun de notre côté, moi de mon côté et de son côté, on essayait d'appliquer consciemment cette théorie-là. Sortait, on passait du temps avec toutes sortes de personnes, même les personnes qui ne nous auraient pas intéressés vis-à-vis du mariage. J'ai invité des filles à sortir avec moi parfois, et dans mon esprit, c'était clair, jamais je ne me marierai avec elles. Mais je peux quand même m'amuser, on peut passer du temps ensemble. Je vais apprendre certaines choses, elles aussi. Et mon épouse a fait la même chose. Et finalement, quand nous commencions à réduire nos diamants, tout en haut, il y avait ma femme. Et heureusement pour moi, je me trouvais vers le haut de son diamant également. Ça, c'est un modèle qui est intéressant parce que ça nous aide à comprendre à quoi servent les fréquentations. Ce n'est pas pour devenir physique, ce n'est pas pour passer à l'éros tout de suite, comme le font beaucoup de jeunes malheureusement et même d'adultes aujourd'hui. C'est pour apprendre à connaître le genre de personnes qui existent, acquérir une certaine expérience et savoir le genre de personnes, mieux connaître, mieux comprendre le genre de personnes avec qui on voudrait passer sa vie. Et nous devons également demander conseil, profiter de l'expérience des autres. Regardez Proverbes chapitre 11. Proverbes chapitre 11. Verset 14. Proverbes chapitre 11, verset 14. Ce principe est vrai dans tous les domaines de la vie, mais c'est vrai aussi quand nous pensons au côté romantique, à la personne avec qui on voudrait éventuellement se marier. Proverbes chapitre 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Nous avons dans nos vies des personnes qui peuvent nous donner de bons conseils. Je sais que moi j'ai demandé conseil à mes parents quand je fréquentais, quand les choses devenaient plus sérieuses avec celle qui allait devenir mon épouse. on demande des conseils, on peut demander conseil à un pasteur de l'Église qui peut étudier avec nous des éléments dans la Bible qui nous aident à comprendre comment nous devons faire. Parents, amis, le ministère peut nous donner de bons conseils pour nous aider à prendre des décisions sages. Je vous ai déjà dit ici que le mariage, c'est la deuxième décision la plus importante qu'on prend dans sa vie. Le premier, c'est le baptême, parce que ça, c'est une décision éternelle de laisser sa vie entre les mains de Dieu à tout jamais. Mais le deuxième, c'est le mariage, parce que ça devrait être quelque chose qui dure jusqu'à la fin de nos jours, dans la chair. Dans l'Église, nous encourageons les personnes qui pensent aux fiançailles, pensent à se fiancer, nous les encourageons à demander conseil et d'avoir plusieurs entretiens avec un pasteur pour discuter, pour voir la compatibilité, pour bien comprendre la décision qu'on pense prendre. Évidemment, nous sommes tous responsables des choix que nous prenons, et personne ne peut nous imposer ou nous défendre de faire telle ou telle chose. Nous avons la liberté d'agir. Nous espérons agir avec sagesse, mais nous allons récolter les fruits de ce que nous semons. Nous devons profiter de l'expérience des autres, de ce que dit la Bible. Tout cela nous aide à prendre une bonne décision en connaissance de cause. Et il vaut mieux venir avec un esprit ouvert plutôt que déjà décider. Il vaut mieux demander conseil avant d'avoir pris la décision. Si quelqu'un vient voir le pasteur pour dire « Nous avons décidé de nous marier, aidez-nous », ce n'est pas la meilleure façon de faire parce que la décision est déjà prise avant d'avoir vu ce qui aurait pu peut-être être utile avant d'arriver à cette conclusion. Il vaut mieux demander conseil avant plutôt que après avoir déjà pris la décision. Parfois, quand on explique des choses comme ça dans des sermons, des études bibliques, des articles, parfois quelqu'un vient nous dire « Oui, mais j'ai connu quelqu'un qui n'a pas fait comme ça et ça a marché. J'ai connu quelqu'un qui a fait autrement et ça a marché. » Peut-être, peut-être que ça a marché, mais souvent nous ne savons pas tout ce qu'il y a à savoir dans ce genre de situation. Mais on doit se poser la question, est-ce que c'était vraiment optimal? Est-ce que c'était le mieux que cela aurait pu être? Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Est-ce qu'ils auraient pu être plus heureux? Et puis, il faut aussi poser la question, combien de personnes ont échoué dans les mêmes circonstances? Peut-être qu'il y en a eu un couple qui a échappé belle, comme on dit, mais combien n'ont pas échappé à cela? Il faut comprendre pourquoi nous nous marions. Ça, c'est un point fondamental. Tout le monde dirait, mais oui, il faut comprendre pourquoi on se marie. Mais si je sortais à Fort-de-France et j'arrêtais les gens pour dire, mais pourquoi est-ce que les gens doivent se marier? Quel est le but du mariage? Pas beaucoup auraient pu me dire. Ils auraient quelques raisons, mais ils ne pourraient pas savoir la raison première. Pourquoi Dieu a créé le mariage? Regardons Éphésiens chapitre 5, encore une fois. Éphésiens chapitre 5, nous y étions il y a quelques minutes. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le mariage? Quelqu'un dirait que c'est pour la reproduction, oui, mais il y a d'autres fins. Il aurait pu faire les choses autrement. Pourquoi l'union d'un homme et d'une femme pour toute la vie, ensemble? Pourquoi est-ce que Dieu a fait des choses ainsi? Éphésiens chapitre 5, verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Dieu a créé le mariage pour nous apprendre certaines choses concernant la relation entre le Christ, entre Jésus et l'Église. Le mariage est une relation au niveau divin. Il nous apprend des choses concernant le comportement de Dieu lui-même. C'est une relation spirituelle que Dieu a établie pour nous apprendre des leçons spirituelles. Comment nous, en tant qu'Église, nous devons nous comporter vis-à-vis de Jésus et comment Jésus-Christ se comporte vis-à-vis de nous en tant que membre de l'Église. Là, il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait répondre à cela si j'arrêtais quelqu'un dans la rue. À quoi sert le mariage? Création, l'amour, fraternité, on a la compagnie, on s'aide mutuellement. Tout cela est vrai, ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas la raison, la première raison. Paul a dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dieu nous apprend des leçons spirituelles par les années que nous passons avec notre conjoint. Genèse chapitre 2, tout au début de l'histoire de la création de l'univers physique et puis l'homme et la femme. Déjà dans Genèse chapitre 2, le deuxième chapitre de toute la Bible, nous avons déjà quelques explications à propos du mariage. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Déjà, chapitre 2 dans la Bible, nous avons cette explication. Le moment vient quand l'homme et la femme quittent leur foyer, quittent leur famille, quittent leur père et leur mère, s'attachent l'un à l'autre et une nouvelle cellule familiale commence. Il y a une nouvelle entité qui commence. C'est une base stable pour les enfants. Ça crée des liens de confiance, de stabilité, de soutien mutuel pour les deux membres du couple. C'est une base stable pour la vie. Alors, pour nous qui sommes déjà mariés, peut-être que nous avons pensé que ce sujet, c'est surtout pour ceux qui ne sont pas mariés, mais même pour nous qui sommes mariés. Nous devons nous poser la question et de réfléchir à l'amour qui nous unit à notre conjoint. Qu'en est-il de cet amour? Est-ce que notre amour grandit encore? Ça devrait être le cas. L'agapé continue en grandissant et ça devrait être le cas pour nous qui sommes mariés. Est-ce que nous témoignons toujours cet amour pour notre conjoint? Comment est-ce que nous le faisons? Comment pourrions-nous mieux faire? Est-ce que nous faisons encore des efforts pour témoigner cet agapé pour notre conjoint? Ça devrait être une partie centrale de notre vie. Et je ne parle pas simplement de la vie sentimentale, mais de la vie. Parce que Dieu est en train de nous enseigner des leçons spirituelles à travers le mariage, cette union qui est à la fois physique et spirituelle. Le troisième volet que nous avons identifié au début, nous avons parlé d'amour, nous avons parlé du mariage, puis vient le côté sexuel, sensuel, la sexualité. Après les deux étapes précédentes, vient les rapports sexuels, la réalisation de l'éros dans le mariage, qui est un don merveilleux que Dieu nous donne. C'est un don merveilleux. Il n'y a rien de mal à la sexualité quand c'est employé comme Dieu l'entend. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Nous avons lu dans Genèse chapitre 2 verset 24, vous y êtes peut-être encore. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'expression devenir une seule chair, ça parle d'une union spirituelle, mais ça parle aussi de l'union physique, ça parle de l'acte sexuel. C'est une partie du mariage, Dieu l'a prévu ainsi. Dieu ne prend pas ça à la légère. C'est une chose qui est pure à ses yeux, la sexualité entre mari et femme. Regardons Hébreux chapitre 13, verset 4, où cette vérité est soulignée. Hébreux chapitre 13, verset 4. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Si vous prenez le temps de chercher le mot dans le grec, lit conjugal est traduit par un mot qui veut dire l'acte sexuel, en fait. Et Dieu dit que le lit conjugal doit être exempt de souillure. Et ça nous montre deux choses. D'abord que la sexualité entre mari et femme, c'est une chose qui est pure. C'est une chose qui est bonne. Dieu veut que ce soit là. Et aussi, nous voyons que Dieu prend les écarts très au sérieux. C'est une chose grave à ses yeux que de commettre le péché de ne pas être fidèle à son conjoint. Dieu ne le prend pas à la légère. Mais l'homme, l'humanité a du mal à trouver l'équilibre dans ces domaines. Il y a deux ou trois générations, la sexualité était une chose un peu honteuse ou sale, un sujet tabou, l'Église catholique le considérait comme un péché véniel, les rapports sexuels, même entre mari et femme, c'était quelque chose qui était pas bien. Le seul but était pour la procréation. Et aujourd'hui, nous sommes tombés dans l'extrême adverse, tout va, il n'y a pas de règles, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. La fornication, c'est-à-dire la sexualité avant le mariage, l'adultère, l'homosexualité, tout. Et ça va aller de mal en pis maintenant, dans les années à venir. Il n'y a plus de limites, tout doit être accepté. La sexualité sert à la reproduction, c'est vrai, mais la sexualité sert aussi à autre chose. Dieu a prévu le côté sexuel du mariage comme une colle émotionnelle et spirituelle qui unit deux personnes. Ils deviennent une seule chair. Il y a une unité très forte qui existe quand la sexualité est engagée. Les psychologues modernes, dans toutes leurs recherches, ont trouvé que les pulsions sexuelles sont parmi les plus profondes et les plus puissantes que nous avons en nous. Ils sont profondément mêlés à notre identité et qui nous sommes, très liés à notre identité. Et Dieu l'a prévu ainsi. Il a prévu pour unir un homme et une femme, pour créer quelque chose qui est plus que le somme des deux personnes. C'est autre chose, c'est une nouvelle unité. Dieu a prévu la sexualité pour coller ensemble un homme et une femme dans le mariage. Et quand c'est employé correctement, c'est merveilleux. Il y a une unité merveilleuse qui existe, qui peut exister. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la colle, qu'on l'utilise correctement ou pas. La colle fonctionne même si on l'utilise mal. Quand les personnes commencent à avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, ça commence et puis ça finit et puis on passe à quelqu'un d'autre, on est en train de se coller sur cette personne émotionnellement, même spirituellement. Et à chaque fois qu'il y a une séparation, il y a une déchirure. Cette déchirure est douloureuse et très difficile. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous nous abusions de ce cadeau merveilleux qu'il nous donne. Ça, c'est un aspect très important à garder à l'esprit. La sexualité est une colle prévue par Dieu pour unir deux personnes dans le mariage. Et si nous employons mal cette colle, nous allons être déchirés par l'expérience. Et nous ne serons plus tout aussi entiers que nous aurions pu l'être. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, toujours. Maintenant le verset 3, cette fois-ci. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Ça me fait penser, pendant que vous cherchez ce passage, l'idée que la sexualité est une chose un peu taboue, un peu pas très bien, ça m'est venu à l'esprit quand j'ai discuté avec des voisins en Alsace il y a des années quand on habitait là, et les gens discutaient de toutes sortes de choses, et puis quelqu'un employait le mot, je crois que c'était le mot sexualité ou sexe, et il savait que j'étais pasteur. Tout de suite après avoir prononcé le mot, il m'a regardé, il a dit « Ah, excusez-moi », comme si il fallait même pas prononcer le mot en présence d'un pasteur. Et j'ai choqué le bonhomme en disant, bah, vous n'avez pas à vous excuser, moi je suis tout en faveur de la sexualité. Et il était, il savait pas quoi dire. Et j'ai dit, quand c'est employé, comme Dieu l'a prévu, c'est une chose formidable. Il n'avait jamais entendu ça. Ça c'est le manque d'équilibre qui existe dans le monde. Mais dans Éphésiens chapitre 5 verset 3, Paul dit que la débauche n'y a aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Si nous voulons être de vrais chrétiens dans le sens biblique. La débauche, et là c'est une question de mal employer la sexualité, de péché par une sexualité déplacée, ça doit même pas être nommé entre les chrétiens. C'est une chose que Dieu prend très au sérieux. La sexualité dans le mariage est merveilleuse, mais en dehors de cela, ça devient un péché et les résultats seront pénibles et difficiles. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'est une bonne description du monde dans lequel on vit aujourd'hui. On se donne à cette passion sans la compréhension de ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et ça part du côté sexuel de la vie. Il y a une façon de se comporter, même dans la sexualité, qui est honnête, qui est saint, et qui est sanctifié. Et c'est cela que nous devons chercher. L'acte sexuel doit servir à unir mari et femme. C'est une façon de témoigner son amour l'un pour l'autre, et ça doit être utilisé ainsi. La sexualité ne doit jamais être utilisée comme une arme, comme c'est parfois le cas. Madame n'est pas content avec monsieur, alors non, il va se coucher sur le divan, dans le lit, etc. Et là, c'est beaucoup dans les comédies, dans les films, etc. également, la sexualité est employée comme une arme. Ça ne doit jamais être employé pour des raisons égoïstes, mais toujours pour montrer de l'amour, de témoigner son amour pour son conjoint. En fait, nous pouvons lire même dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 7 est un chapitre qui contient beaucoup d'instructions à propos du mariage pour le chrétien, la chrétienne. Et la Bible parle très ouvertement de la sexualité. La Bible n'a pas honte de ce sujet. Dieu l'a créé. Et quand Dieu avait créé Adam et Ève, il s'est marqué, il a vu que tout ce qu'il avait créé était très bon et très bien. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit. Ça ne parle pas de l'argent de la commission. Ça parle des rapports sexuels. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Et il continue. La sexualité dans le mariage, c'est une façon de témoigner son amour. C'est de rester et de devenir de plus en plus unis à travers les années. La sexualité est un don merveilleux que Dieu nous donne. Il faut l'utiliser correctement. Tout comme un feu, le feu peut être très agréable ou le feu peut être très destructeur. C'est pas, si vous avez un feu dans un cheminée, c'est formidable. Ça sent bon, ça donne la chaleur, on peut cuire et ainsi de suite. Mais si le feu prend dans la maison, là ce n'est plus une chose agréable, c'est une chose terriblement destructeur. Et la sexualité, c'est un peu comme ça. Nous pouvons l'utiliser correctement ou nous pouvons nous brûler. Comment on fait les choses comme Dieu nous l'explique dans la Bible? On a le mieux de tout. On a le meilleur de tous les mondes. Parce que Dieu nous donne les instructions. Nous avons le côté physique qui est formidable et merveilleux. Mais nous avons aussi la compréhension des leçons spirituelles. Nous avons la possibilité même de comprendre certaines choses que Dieu voudrait nous montrer à propos de son propre dessein pour le Christ et pour l'Église. Alors, il est important pour nous que nous soyons célibataires, que nous soyons mariés, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous devons comprendre les instructions que Dieu nous donne à propos de ce côté tellement important dans la vie. Et nous devons nous rappeler l'ordre dans lequel ces choses doivent se passer. L'amour, le mariage, et après, la sexualité.